Les baptêmes sont toujours un peu une curiosité pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vivre le baptême comme nous le vivons. En fait, nous n'avons que des baptêmes de personnes adultes lorsque les parents nous le demandent. Nous prions pour la bénédiction pour les enfants, mais c'est une bénédiction, non pas un baptême. Et donc, à l'instar de Jésus qui a été présenté à l'âge de 8 jours au temple, ben on prie et on demande au Seigneur la bénédiction sur l'enfant, mais aussi la bénédiction sur les parents, parce que d'être parent, c'est tout un métier. Pas toujours simple. Voilà, c'est la réalité, mais... donc, la notion du baptême a... J'allais dire, elle a dévié au cours des siècles pour devenir parfois, et je le dis sans critique aucune, mais c'est devenu une religion. Tu es baptisé protestant, tu es baptisé catho, mais j'allais dire, excusez-moi, mais c'est de la stupidité, quoi. On n'est ni protestant, on n'est ni catho, on est disciple du Christ, quoi. Et donc, notre baptême n'est pas protestant et généralement, lorsque les personnes demandent à être mariées, par exemple, on ne leur demande pas si ils ont le tampon, etc., parce que ce n'est pas une notion que nous avons. Jésus, avant de quitter ses disciples, dit « Allez par tout le monde ». Et annoncez-leur ce que je vous ai enseigné. Faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et par ailleurs, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême ne sauve pas en lui-même, c'est le fait de croire et c'est la démarche. Parce que quand on est plongé comme ça dans l'eau, c'est bien parce qu'on a envie de vivre avec Jésus et de le suivre. Il y a du symbolisme de la personne qui meurt et qui ressuscite avec Christ, mais c'est surtout la prise de position, la décision. Moi, je décide aujourd'hui de vivre et de marcher avec Jésus parce que j'ai rencontré le Seigneur parce que je vis des choses avec lui et je m'engage à le suivre. Donc il n'y a pas de connotation religieuse dans le mauvais sens du terme, je dirais. Voilà. Alors, on a un baptistère parce que le terme baptisé veut dire être immergé. Et les baptêmes... se font comme ça. D'ailleurs, dans un ancien temple qui date il y a très longtemps à Poitiers, il y a un baptistère et il y a des baptistères par-ci, par-là, où les gens étaient baptisés, mais complètement, quoi. Lorsque, à un moment donné, il a fallu qu'on change la chaudière et le pasteur qui était là... dit, mais est-ce que ça va suffire pour un baptême? Ah ouais, largement. Et moi, je vous disais, je t'assure, ça ne suffira jamais, quoi. Enfin bref, et puis ils ont été obligés souvent de mettre de l'eau avec un robinet, des seaux, etc. Ce n'était pas pratique. Et donc quand j'ai repris le ministère pastoral, une des premières choses, c'était de dire aux gars... venez me voir, quoi. Et donc je l'ai emmené là, j'ai ouvert la trappe et j'ai dit, il faut me remplir ça d'eau. Le gars, il dit, mais il fallait nous le dire. Je dis, on vous l'a demandé, le jeune pasteur vous a demandé si c'était suffisant pour le baptême. Il dit, oui, mais je crois que c'était un baptême d'enfant avec quelques gouttes dessus. Ah, forcément. Donc généralement, avant que les personnes se fassent baptiser, on... leur demande de dire pourquoi elles se font baptiser, c'est-à-dire d'apporter un témoignage, que donc vous entendrez Laurine pour ce faire. Lorsqu'une personne qui chemine avec nous demande le baptême, on lui dit à un moment donné, tu veux être accompagné par qui ? Et donc si la personne qui est proposée tient la route, on va dire ça comme ça, on dit ok. Et donc cette fois-ci, c'est Merdi qui a accompagné Laurine à travers du baptême, enfin voilà, une étude. Et on dit, ben, on va jusqu'au bout de la démarche. Au lieu que ce soit le pasteur que je suis qui pratique le baptême, ben, ce sera Merdi. Donc, des fois, c'est un peu choquant. Comment que ça se fait que ce n'est pas le pasteur qui... Comment que ça se fait que... Pire encore, comment que ça se fait que c'est une femme ? Faites de toutes les nations des disciples. Il n'est pas dit que c'était le pasteur qui devait le faire. Donc, en tout cas, c'est notre pratique. Et là, Laurine est toute seule, mais parfois, il y en a trois ou quatre. Et il y a plusieurs personnes, dans ce cas-là, qui rentrent dans le baptistère pour baptiser la personne qu'ils ont accompagnée. Voilà, vous savez presque tout. Donc, je vais laisser la place à Laurine. Si tu veux bien venir, nous expliquer... Pourquoi tu prends le baptême aujourd'hui ?
Bonjour. On va passer un petit moment ensemble parce que j'ai 5 feuilles. Hein. Pas recto verso, ça va, ça va. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous remercie vraiment d'être venue. Je suis originaire de l'île de la Martinique, qui est la plus belle île au monde, en toute objectivité. C'est normal, hein ? Où j'ai eu en fait une belle enfance, où j'ai grandi au sein d'une famille qui est très aimante. Et je remercie encore mon père qui est là aujourd'hui et qui est venu tout droit de Martinique. Et j'ai grandi au sein d'une fratrie, ou plutôt on va dire d'une sororie de 3 sœurs, dont je suis la Benjamine. J'ai grandi dans cette famille de confession catholique qui a su m'inculquer qu'il y a un Dieu, qui est notre créateur, qui voit nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais surtout que ce Dieu-là, il a été fait de chair et a été Jésus-Christ, du coup, qui s'est donné pour nous à la croix, afin que nous soyons pardonnés. Cela, j'ai compris depuis que je suis toute petite. Donc j'ai toujours cru en la présence de Dieu, sans savoir qu'il y avait une relation à créer vraiment avec lui. Sans vrai repère, j'ai construit vraiment à l'aide de mes connaissances ce qui me paraissait être bien ou mal. Et en fait, j'ai eu toujours, en fait, en tant que dernière de la fratrie, j'ai toujours eu l'envie vraiment de prouver qui j'étais, prouver ma place, prouver ma personnalité, mes capacités, etc. Mais en réalité, je ne savais vraiment pas pourquoi je voulais prouver tout le temps qui j'étais. Donc je ne savais pas du tout. Mais petit à petit, c'est vraiment en voulant prouver à chaque fois que j'ai construit comme une sorte de carapace autour de moi. Et au fil des ans, celle-ci a continué à se forger avec mes propres convictions et idéologies. Elle est vraiment devenue une seconde peau, en fait. Elle est devenue ma personnalité, ce que je pensais vraiment être. J'étais convaincue que j'étais Laurine, celle qui était vraiment la plus forte, qui était plus forte que tout ce qui peut lui arriver, pas forcément la plus forte, mais en tout cas plus forte que toutes les épreuves qu'elle pouvait avoir, qui était capable vraiment de supporter tout par ses propres forces. Une sorte de super-héros pour ma vie, en fait. Mais un jour, en fait, cette carapace, elle a forcément été éprouvée, et elle n'était pas si résistante que ce que je pensais. Et la plus forte fissure est vraiment arrivée comme une espèce de coup de fouet, entre guillemets. Et en fait, c'est arrivé en 2019, donc il y a 5 ans, à l'âge de 16 ans. Juste quelques mois avant ma dernière année au lycée, j'ai désobéi à mes parents. Alors, ça arrive, hein, les enfants, ça arrive. C'est pas très grave certaines fois. Mais il faut savoir quand même que désobéir, c'est vraiment avec des conséquences, du coup. Et j'ai fini par le comprendre. Et en fait, pour tout vous dire, je vais le faire de manière succincte, je suis allée sans l'accord de mes parents rendre visite à un ami qui avait perdu son père. Et je ne comprenais pas pourquoi mes parents me disaient de ne pas aller chez lui. Je n'avais pas vu le danger qu'eux y voyaient. Cette personne en qui j'ai soupçonné aucun mal a fini par éprouver en fait mon âme en tentant d'assouvir ses pulsions au travers d'un rapport sexuel sans consentement. Forcé de constater que je rejetais avec force le rapprochement qu'il avait débuté sans mon accord, il s'est arrêté n'allant pas jusqu'au bout de son envie. Je me suis alors retrouvée seule face à cette situation devenue une étape traumatisante. J'ai repensé à mon père et à ma mère. Comment le dire à ses parents qui donnent tout pour répondre à mes besoins ?
Comment leur dire que j'ai désobéi et que je regrette? Et au final, comment ne pas leur dire pour éviter tout ce mal? Pardon. Dépourvue face à cette épreuve, j'ai pas eu le courage de leur en parler. Et je m'en excuse encore aujourd'hui. Vous inquiétez pas, je m'excuse pas pour la première fois, je l'ai déjà fait. Je me suis tournée vers celui que je connaissais que très peu, dont je savais une chose. Je déteste pleurer en public. Merci. Et je me suis tournée vers Dieu, même si je ne le connaissais pas assez, et je savais qu'une chose, c'est qu'il était mon créateur. Donc je me suis dit, ben, j'ai pleuré à lui, j'ai crié à lui, je lui ai dit, ben, je veux que tu m'aides, je ne sais pas comment, mais je veux. Et sans le savoir, il m'a répondu, il m'a donné la résilience de faire ma dernière année au lycée avec la présence quotidienne de celui qui a fait cette action. J'ai commencé à chercher Dieu. Je ne savais pas vraiment comment, je lisais la Bible chaque matin, je me disais, bon, ben, je vais essayer de me répéter sans cesse les versets que je lis chaque matin pour me dire que c'est mon guide de la journée. Je ne comprenais pas vraiment, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, je ne comprends pas vraiment ce qui m'est arrivé. Même si la personne n'est pas allée jusqu'au bout de ses actions, ça a eu des répercussions sur ma vie de femme et a aujourd'hui vraiment encore des répercussions, mais je sais que Dieu me guérit. Les mois ont passé, j'ai gardé cette épreuve enfouie avec une envie de l'oublier. Arrivée en France, j'ai connu la solitude. Je suis arrivée en France en 2020. Et en fait, la solitude a fait ressurgir cette blessure-là, deux fois plus forte en fait. Son intensité était vraiment telle que mon cœur s'est endurci. J'avais une méfiance à toute épreuve, des relations agressives envers toutes les personnes qui pouvaient m'approcher physiquement, mais aussi envers moi-même en fait. Et ce qui m'a entraînée vers un cercle vicieux avec une peur qui était presque quotidienne. Peur de sortir la nuit, peur de me faire agresser encore une fois, peur d'avoir ressentir encore cette émotion où je ne contrôlais rien. Mais dans cette solitude, je m'accrochais à celui dont il est dit en Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Je m'approchais avec l'espoir de voir son action sur ma vie pour restaurer mon âme. En avril de l'année dernière, il s'est approché de moi, sans que je ne le sache, car c'est une rencontre inattendue qui m'a conduit dans une soirée du groupe de jeunes. À travers un enseignement sur l'Esprit-Saint, j'ai alors eu toutes les réponses à mes questions et à mes recherches. Pour me sortir de la solitude, pour guérir de cette blessure, pour restaurer mon âme et pour me pardonner à moi-même, il n'y a qu'une seule option, Dieu. C'est à cet instant que j'ai compris qu'en lui se trouve la vie. En lui se trouve mon Sauveur et Seigneur. Nul besoin de carapace superficielle, pardon. En lui se trouve le pardon. Aujourd'hui, je sais qu'en lui j'ai mon identité, qu'il continue sans cesse d'être présent à mes côtés pour m'accorder la guérison. Aujourd'hui, je sais qu'aucun sentiment de honte ou de culpabilité je n'ai à avoir, car en fait, tout est accompli en lui, et qu'il m'accorde le pardon et même la force de prier pour celui qui a fait cet acte, même si je ne me croyais pas capable. J'aimerais vous dire qu'il peut, si vous lui donnez votre accord, faire la même chose pour vous. Inutile d'attendre d'être pur ou soi-disant parfait pour retourner à lui. Inutile d'attendre, en fait, tout simplement parce que c'est dans notre imperfection qu'il va rayonner. Pour témoigner mon témoignage, je vais prier quelques minutes avec vous. Père éternel, ma vie n'est plus à moi, mais elle est entièrement à toi. Je sais qu'il est dit dans ta parole, ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Je te remercie pour ton action dans ma vie, pour ta présence, même quand je ne la voyais pas. Et je te prie de restaurer les âmes qui sont brisées, comme tu l'as toujours fait et tu continueras à le faire. Toi Sauveur, toi Seigneur, à qui plusieurs noms ont été donnés pour te représenter, Yahweh, Éternel, Rapha, celui qui guérit, Elohim, Dieu Créateur, Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Jireh, l'Éternel pourvoira, Adonai, toi Seigneur, je veux me donner à toi, être ton adoratrice, ton disciple et faire ta volonté. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Eh ben, on a écouté ton témoignage, Laurine, et j'ai juste deux petites questions à te poser. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de tes jours?
Oui, je le veux.
Tu es prête à être son disciple, à marcher dans ses voies et à chercher sa volonté?
Oui.
Alors, sur cette confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Voilà, je vous propose une réflexion. Il m'arrive parfois de dire à des personnes qui ne me connaissent pas, je leur dis, j'ai fait 24 ans de prison. Donc souvent, les personnes me regardent avec des grands yeux. Recule presque. Mais je leur dis dans un deuxième temps que c'était comme pasteur, pas comme détenu. Et je me marre parce que j'aime bien mes bêtises. Voilà, je trouve que c'est cool. Je m'en amuse. Cela dit, même si ça fait un moment que... j'ai arrêté, je suis toujours aumônier dans le milieu de la santé physique et mentale. J'ai pas oublié un gars que j'ai accompagné pendant plusieurs mois. Il s'appelait Adrien, il est décédé depuis. Adrien, à chaque fois que j'allais à la prison, j'avais un petit mot, je voudrais te voir, donc on se voyait, et il avait sans cesse un besoin de confession. Et donc il disait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais c'était long comme un bras, comme on dit. Et puis ce jour-là... Ce jour-là, il me dit « Je dois te confesser que je suis allé à la librairie Richer et que j'ai volé deux Bibles. Je les voulais grosses pour que le Seigneur soit avec moi. » Je trouvais ça tellement insolite. En fait, en parlant de cela... de la prison, mais aussi de l'hôpital, il y a parfois un parallèle. C'est que les uns et les autres sont arrêtés dans leur vie pendant un temps. Et parfois, pas tous, pas tout le monde en tout cas, les personnes sont obligées de réfléchir sur leur vie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Je me rappelle d'un ancien maire qui me disait « Ah, monsieur le pasteur, il avait du mal à me vouvoyer, lui. Monsieur le pasteur, il avait du mal à me tutoyer. J'étais sur mon lit d'hôpital, moi qui suis agnostique, je me suis posé des questions existentielles. » Et je lui disais « Mais fallait me demander. » Voilà, je peux venir te voir chez toi ou à un autre endroit, mais en fait, comme il allait mieux, il a oublié. Il passe à autre chose. Parfois, on a des circonstances comme ça où il nous arrive quelque chose et on se dit mince, on prend conscience qu'il faut, peut-être réfléchir à ce qu'on fait. Cette semaine, rien à voir, mais en allant à Durtal, à notre groupe de maison, je suis passé dans un garage automobile. J'ai demandé à voir le patron. Je lui ai dit, moi, je veux vous voir dans votre bureau, ce qui s'est fait. Je lui ai dit, tu te rappelles de moi ? Non, non. Enfin, pour faire court, quand il était ado, il s'est pris de bec avec son père. Et ça fait 10 ans qu'il ne veut plus lui parler. Et je lui disais, écoute, ce serait quand même dommage de vouloir reprendre contact avec lui alors qu'il est dans le cercueil, parce que ce sera trop tard. Ton père a failli mourir plusieurs fois, et sa dernière hospitalisation, c'était 3 mois, donc essaye. Et je ne veux pas t'inciter, je ne veux pas t'obliger, je n'ai pas dit à ton père que je viens te voir, mais fais la démarche avant que ce soit trop tard pour toi ou pour lui. Il y a des fois des situations dans lesquelles nous sommes qui nous obligent à réfléchir sur notre situation. Et parlant de la prison, forcément, les gens sont enfermés, mais combien de nos contemporains, peut-être combien de personnes ici sont enfermées dans leur solitude, dans leur remords, dans leur péché, dans leurs blessures, comme nous l'avons entendu pour Laurine, enfermés à l'intérieur. C'est, voilà, c'est une autre sorte de prison qui est difficile à vivre et où il y a effectivement besoin d'un coup de main. Cela dit, il y a des personnes qui ne souhaitent pas se poser des questions parce qu'elles ont peur de devoir y répondre. Je ne suis pas là pour culpabiliser que ce soit. C'est juste pour que nous soyons conscients que notre vie défile. Moi-même, j'ai plus 20 ans. Et ça file vite. Donc pour revenir à Adrien, j'ai volé 2 Bibles chez Richer. C'est ça, je les voulais bien grosses pour être certain que Dieu est fortement avec moi. Quelle drôle d'idée que de croire que Dieu serait plus avec lui parce qu'il possédait une Bible. Il y a plein de personnes qui possèdent une Bible dans leur bibliothèque. Ça ne change pas leur vie pour autant. Quelle drôle d'idée de croire que parce qu'elle est plus grosse, elle a plus de valeur. C'est peut-être juste que la police d'écriture est plus grosse, hein. Mais le contenu est le même. Le fait d'avoir ses Bibles n'ont pas changé son cœur. Et parce que son cœur n'a pas été changé, j'allais dire, il a fait l'andouille et il s'est retrouvé une nouvelle fois en prison. Heureusement pour lui, dans la démarche, dans nos échanges, dans nos partages, il a fait une démarche un peu comme Laurine, c'est je suis conscient de ne pas réussir moi-même avec mes addictions, avec mes penchants. J'ai besoin d'un coup de main et il me semble que Jésus seul peut me donner un coup de main dans ce que je vis et dans ce que je suis. En fait, il a pris conscience, lui et heureusement plein d'autres, il a pris conscience qu'il avait besoin d'avoir un changement intérieur et que le changement, les bonnes résolutions n'étaient pas suffisantes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans ton cœur, qui fasse que la chenille que tu es, pour prendre une image, devienne un papillon. Il faut qu'il y ait une métamorphose dans ton cœur, dans ta vie, dans ton être. Et cette métamorphose ne peut pas se faire, se vivre par des techniques, mais seulement par l'action de l'Esprit-Saint dans le cœur et dans la vie des personnes. Je le disais aux détenus, je pensais venir en prison, mais comme détenu. Parce que à l'âge de 16 ans, 15 ans, non, ça avait commencé à 13 ans, mon projet de vie, moi, c'était de tuer mon père. Parce qu'il nous en faisait baver beaucoup trop, quoi. Quand vous voyez votre mère par terre, votre père tapé dedans, quand vous la voyez pieds et mains attachés sur un lit d'hôpital psychiatrique. Et Jésus a touché mon cœur. Alors vous, peut-être vous venez là pour la première fois, parce que invité pour le baptême. Moi, les premières fois que je suis allé à l'église, c'était pour draguer la fille du pasteur. Donc, ça, hein, voilà, c'était autre chose. Cela dit, dans sa grâce, Dieu a touché mon cœur et ma vie. Il m'a métamorphosé quelque part, au point que, au lieu de mettre en action le but ou l'idéal que je m'étais forgé quand j'étais gamin, ben, Dieu, l'Esprit Saint s'est manifesté dans ma vie pour que je puisse avoir un changement intérieur. C'est pour ça que Laurine disait tout à l'heure, je ne savais pas que l'on pouvait avoir une relation personnelle avec Dieu, qu'on pouvait vivre avec lui. Mais c'est ce que dit un philosophe qui s'appelle Blaise Pascal. Lui, il disait, il y a dans le cœur de l'homme un vide, et ce vide a la forme de Dieu, et lorsque la personne accepte que Dieu vienne dans son cœur et dans sa vie, alors sa vie est comblée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problèmes, plus de difficultés, etc. Ça veut dire que la soif, la recherche de sens est trouvée. C'est comme si, en laissant Jésus entrer dans nos cœurs et dans nos vies par l'Esprit Saint, notre soif est étanchée. Ah, ça fait du bien. Les questions du maire sur les questions existentielles, donc, étaient justes. Elles sont normales. Elles sont, en principe, toutes les personnes se posent des questions. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Qui je suis? Et Jésus veut nous donner les réponses. Pour lui, nous ne sommes pas un matricule, un numéro. Nous sommes une personne qu'il connaît d'une manière personnelle et intime. Croire que Dieu existe ne suffit pas. Je crois que Dieu existe, ouais, mais ça ne suffit pas. L'apôtre Jacques dira même que les démons croient aussi que Dieu existe et ils en ont peur. Donc la croyance n'est pas suffisante. J'aime bien répéter cette formule qu'avait une personne qui était au milieu de nous. Elle nous disait, je ne crois pas que Dieu existe. Je le sais. Et ça prend une tournure tout autre. Je ne crois pas. Je sais. J'en suis convaincu. Parce que je vis avec lui. Cela dit, dans la société dans laquelle nous sommes, mais ce n'est pas propre à notre société, nous avons fait de Dieu un produit de consommation. Quand on a un problème, on crie vers lui. Quand on n'a plus de problème, on le délaisse. Quand on a un problème, qu'on crie vers lui et qu'on n'a pas de réponse, on s'en prend à lui en disant que ben, s'il existait, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela, il n'y aurait pas. Je pense entre autres aux guerres, etc. Mais il n'y a qu'à nous voir comment on est quand on est au volant de notre voiture et qu'on nous fait une queue de poisson. Moi, pareil, hein. Faut pas me chercher. Avant de regarder ce qui se passe dans le monde, regarde ce qui se passe dans ton cœur. Regarde et demande de l'aide, mais ne fais pas de Dieu un produit de consommation. Je ne veux pas être désobligeant, mais quand même, j'en ai vu, moi, et entendu des personnes qui prenaient Dieu comme une vache à lait, comme on dit. C'est un peu cru, mais voilà, c'est produit de consommation. Il doit me répondre à mes prières, voire à mes exigences, parce que c'est souvent des exigences. Je vais conclure en posant en tout cas une question, mais comment est-ce que toi tu vis avec Dieu ? Quel est ton rapport avec lui ? Déjà, quel est le rapport avec toi-même ? Quel est ton rapport avec les autres ? Jésus veut t'apporter une vie qui soit digne de ce nom-là. Veux-tu être ou devenir disciple de Jésus et non pas religieux ? D'être disciple parce que Jésus a tout fait pour te permettre de vivre libre à l'intérieur. Je vous invite à prier. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui ne sont pas encore tes disciples. Malgré leur croyance, malgré la possession d'une Bible, malgré qu'ils pensent qu'ils sont moins pires que d'autres, je te prie que ce matin tu viennes rejoindre d'une manière personnelle et précise plusieurs personnes de cet auditoire et que tu touches leur cœur pour que non seulement ils soient des gens qui croient, mais qui deviennent des disciples en s'engageant avec toi et en te demandant de changer, de métamorphoser leur cœur, leur vie. S'ils sont chenilles aujourd'hui, je te demande que demain, après-demain, ils deviennent papillons. Esprit Saint, viens et manifeste-toi dans ce sens. Ouais, je voudrais juste donner l'occasion, alors qu'on laisse les yeux fermés, je voudrais juste donner l'occasion à quelqu'un de dire, moi je veux devenir disciple. Si c'est votre cas, levez la main là où vous êtes, je ne vais pas vous faire venir. Oui, vous pouvez baisser la main, oui, aussi. Ouais. Voilà, je ne vous fais pas lever, je vous demande de lever la main parce que ce n'est pas vers moi que vous la levez, c'est vers Dieu, quoi. C'est vers Jésus pour lui dire, moi je veux bien que tu me changes et que tu donnes un sens à ma vie. Voilà, je ne vais pas continuer. Quelqu'un d'autre ? Oui. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé la main, et toi, tu les as vues. Et je te prie pour que tu chemines avec eux. Nous voulons bien cheminer nous-mêmes avec eux, mais je te demande que cet élan du cœur, ce cri peut-être du cœur, ben tu le vois, et je te demande que tu agisses et que tu interviennes en leur faveur, au nom du Christ. Amen. Amen. Voilà, et ceux qui sont touchés par le fait d'être baptisés comme ça, ben vous pouvez venir me voir ou parler à quelqu'un dans l'église pour être accompagné, vous aussi, dans le baptême.